Chers amis, nous sommes donc au début d'une nouvelle série dans l'évangile de Luc. Mais ça porte un peu à confusion parce que le titre que vous voyez ici, c'est l'évangile de Jean. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit bien sûr de Jean-Baptiste dans ce récit. Mais peut-être vous vous dites, mais pourquoi on commence une série au chapitre 3 ? Au lieu de commencer au chapitre 1 et chapitre 2. C'est vrai que d'habitude, on pense suivre l'ordre que le Seigneur nous donne dans un livre. Mais c'est vrai qu'à Noël, souvent, nous avons prêché dans les années précédentes le chapitre 1 et le chapitre 2. Et on s'est dit que peut-être là, aujourd'hui, c'est plus propice de démarrer avec le chapitre 3. Comme c'est la période aujourd'hui pour nous qui précède Noël, déjà vous avez vu, même à l'église on commence à s'y préparer, même si on trouve que dans les magasins c'est encore trop tôt de bombarder, pas trop de choses Noël, etc. C'est peut-être quand même approprié, n'est-ce pas, d'écouter celui, c'est-à-dire Jean, qui nous exhorte à faire cela, à préparer Noël, préparer l'arrivée de Jésus, donc Jean-Baptiste. Selon le verset 4 de notre texte d'aujourd'hui, où Jean cite le prophète Ésaïe, Jean il nous appelle à préparer le chemin du Seigneur. Donc mettons-nous à l'écoute donc, de ce que Jean dit dans son évangile, évangile selon Jean, car Jean dit au verset 18 de ce texte, il annonçait la bonne nouvelle, c'est le mot pour l'évangile, la bonne nouvelle au peuple. Certes, la bonne nouvelle que Jésus et les apôtres proclameront plus tard nous fournira à une compréhension encore plus précise que celle que Jean il avait à l'époque où Jean exerçait son ministère. Mais en rien est-ce que cela signifie que nous ne devons pas faire attention aux éléments de la bonne nouvelle que Jean met bel et bien sur la table. Donc l'évangile selon Jean, Jean-Baptiste, nous prépare pour l'évangile de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, dans son style assez direct, permet que nous comprenions les enjeux de l'arrivée du Seigneur. Ce qui nous mène à notre premier point que vous voyez sur le plan, qui a pour titre, comme c'est le cas pour nos trois points, un dicton employé par Jean lui-même. Donc, premièrement, la voix qui crie, la voix qui crie. Le Seigneur vient, et alors ? Le Seigneur vient, et alors ? Nous apprenons au verset 2 de ce texte qu'à un moment historique en Judée, bien documenté, vous l'avez vu par Luc au verset 1, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie. Jean sert donc en tant que prophète, le dernier prophète avant Jésus. Et Luc donne un résumé de son message lorsqu'il dit au verset 3 que Jean prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et pour cadrer notre compréhension de la portée de son appel à la repentance pour le pardon des péchés, Luc donne un résumé du ministère de Jean-Baptiste en citant ce que disait le prophète Ésaïe à son sujet. Car si la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert, Ésaïe, lui, qui prêchait plusieurs siècles avant Jésus-Christ, s'est projeté, lui, dans un avenir lointain lorsqu'il annonce qu'il y a une voix de celui qui crie dans le désert. Jean comprend Luc, est l'accomplissement de ce mot prophétique d'Ésaïe. Et quel donc est le message de celui qui crie dans le désert ? Il faut préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Rendre droit ses sentiers. Car lui, le Seigneur, il vient. C'est ça le message d'Ésaïe. Et quand il vient, verset 5, toute vallée sera comblée. Toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. Quand le Seigneur vient, personne ne peut l'empêcher. Ce texte d'Ésaïe marque le début d'une nouvelle ère pour le peuple de Dieu dans la prophétie d'Ésaïe. une ère d'espoir pour un peuple exilé qui s'attend à une délivrance qui ressemblera à la délivrance d'Israël d'Égypte lors de l'Exode. Une délivrance qui aura lieu quand Dieu lui-même, le Seigneur, vient auprès de son peuple. Trois versets plus tard de cette citation de Luc, du prophète Ésaïe, Ésaïe dit, chapitre 40 d'Ésaïe, dit aux villes de Juda, « Voici votre Dieu, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. » Donc le Seigneur vient, c'est ça ce qu'Ésaïe annonce. Et sa venue aura des conséquences non seulement pour Juda, nous dit Luc, mais aussi pour nous tous. Car verset 6 de notre texte, « Toute chair verra le salut de Dieu. » Toute chair verra le salut de Dieu. Jean, donc, annonce la venue du Seigneur dans la personne de son Fils, Jésus. Dieu y vient. Il vient avec le but de délivrer son peuple de ses péchés. Et il le fera de manière semblable à l'Exode. Il délivrera son peuple en remportant, comme c'était le cas pour Pharaon, la victoire sur ses ennemis. Et alors, qu'est-ce que cela signifie? Quand Dieu vient, que faut-il faire, nous les hommes? Quand Dieu y vient, nous rendre visite. Qu'est-ce qu'il nous faut à ce moment-là? Lui demander pourquoi il avait tardé, l'ignorer, car il ne m'intéresse pas tellement, tu sais, il y a autre chose dans la vie. Lui dire que nous sommes déçus de lui, quoi qu'il en soit. Lui dire que j'aurais fait moi mieux à sa place. Cette semaine, j'ai vu un extrait d'un documentaire sur le terrible éboulement dans le Valais, en Suisse, qui a eu lieu en fin mai de cette année-ci, suite à un effondrement d'un glacier à 2000 mètres, avec résultat catastrophique que le village haut-valaisan de Blatten, peut-être vous avez entendu parler de ce village, 300 habitants, hôtels, églises, habitations privées, etc., a totalement disparu. Submergé par des rochers, de la glace, de la boue. Grâce au système de prévention de géologues et zours, le village de 300 habitants, à part un seul berger apparemment, a été évacué. J'étais interpellé quand j'ai vu cela cette semaine, quand nous sommes, la famille Orange, nous sommes passés par ce village lors de nos vacances en Suisse à un moment donné. Un couple d'hôteliers rendait témoignage après avoir perdu leur hôtel familial de plusieurs générations en un clin d'œil. Que disait la femme de ce couple par rapport à ce drame? À la fin de son témoignage, elle avait dit ceci avec des larmes aux yeux. Et elle a dit, j'ai encore des choses à régler avec lui par rapport à ce qui s'est passé. Je dois encore lui parler. Alors si d'un côté, nous comprenons le choc émotionnel, bien sûr, le drame personnel qu'un tel événement représente, la réaction néanmoins de cette femme relève une compréhension de Dieu qui est simplement loin d'être adéquate. Car lorsque Dieu vient, ce n'est pas pour raisonner avec nous, ce n'est pas pour affirmer que nos doutes à son propos ont été justes, c'est pour établir définitivement son règne de justice. Et pour moi, pécheur que je suis, de tenir face à sa sainteté, il n'y a qu'une chose à faire, me tourner vers lui dans la repentance pour plaider le pardon de mes péchés. au lieu d'essayer de l'accuser, lui, de péché. D'ailleurs, c'est bien ce que Jésus affirme plus tard dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, verset 4. Suite à une autre catastrophe, lorsqu'une tour tombe et 18 âmes sont perdues. Repentez-vous, il a dit, face à cette nouvelle. Jean prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, pour pouvoir délivrer les siens, comme Dieu a fait lors de l'Exode. Il triomphe sur ceux qui s'opposent à lui, que ce soit Pharaon, que ce soit des Babyloniens au temps d'Ésaïe, que ce soit les Romains au temps de Jésus, que ce soit les Bruxellois au XXIe siècle après Jésus-Christ. Peu importe, pour délivrer les siens, lorsqu'il vient, il triomphe sur ceux qui s'opposent à lui. Et donc Jean parle dans ce texte, vous l'avez peut-être vu, à la fin du verset 7, sans gêne de la colère à venir. De la hanche, verset 9, qui est mise à la racine des arbres, prête à faire son travail d'abattre l'arbre. Lorsque l'éboulement de Blatten en Suisse a eu lieu, et la partie du glacier au-dessus du village s'écroulait, des millions de mètres cubes de gravats, glace et eau se décrochaient, recouvrant le petit village de Blatten en moins d'une minute. En moins d'une minute. Les images de l'éboulement et du nuage gigantesque qui s'est créé juste après ont fait le tour du monde. Face à un tel désastre, il n'y avait qu'une seule chose à faire, fuir, se mettre hors du danger. Le plan d'évacuation, déclenché une dizaine de jours avant la catastrophe, aura permis de sauver l'ensemble, à part un, des 300 habitants du village. Devant le jugement de Dieu qui tombera lorsqu'il vient définitivement, il n'y a qu'une seule chose à faire. Fuir. Fuir là où nous pouvons nous trouver hors du danger. Et serons-nous hors du danger car nous réclamons notre tradition à nous, nos ancêtres, notre arrière-plan religieux, notre appartenance externe à un groupe, à un peuple, à une nation, à une dénomination, à une famille, à même une église locale. Que, comme si Dieu jugera certains qui n'aiment pas, ça c'est clair, mais il va agir quand même avec favoritisme envers tout, parce que nous appartenons au bon groupe. Que dit Jean là-dessus? Il accuse la foule qui vient vers lui d'une mauvaise réputation, d'une mauvaise motivation lorsqu'il s'approche de Jean, verset 7. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Car verset 8, il paraît qu'ils sont confiants, eux, de leur statut et ils ne cherchent pas à produire du fruit d'une repentance réelle. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants d'Abraham. Votre étiquette, membre du peuple descendu d'Abraham, ne fera pas la moindre différence lorsque Dieu vient. Car Dieu est capable de faire des descendants d'Abraham autrement. Ce que Dieu cherche n'est pas ce qui réclame une appartenance externe à son peuple, mais ceux qui ont le cœur transformé, qui se tournent vers lui, qui cherchent sa face, qui font preuve d'un amour authentique de notre Seigneur. Ce n'est pas que toute étiquette est mauvaise, mais que nous ne devons pas nous servir de notre étiquette pour poursuivre une réalité différente de ce que cette étiquette communique. D'après Paul à Timothée, dans l'épître de 1 Timothée, de 2 Timothée, pardon, dans les derniers jours, il y aura ceux qui portent l'étiquette chrétien, membres de l'Église, mais que ceux qui seront, dit l'apôtre Paul, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Et donc tout cela nous mène à l'application que Jean il donne par la suite. Et donc notre deuxième point, préparer le chemin. En quoi consiste cette préparation? Si l'appel de Jean est un appel de repentance, Jean ensuite est interrogé, lui, par 3 groupes différents. Et cela nous permet de voir concrètement ce que cette repentance signifie. D'abord, il y a la foule, ensuite les collecteurs d'impôts et ensuite les soldats. Donc d'abord la foule, verset 10. La foule l'interrogeait, que devons-nous donc faire? Verset 11, il leur répondit, que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a 2 quoi manger fasse de même. Jean, il sait très bien que l'Ancien Testament reflète déjà l'intention et le souci que le peuple d'Israël aurait dû porter aux pauvres et aux personnes vulnérables parmi eux. Car l'amour de Dieu va de pair avec l'amour pour notre prochain. Car mon prochain, comme moi, il est porteur de l'image de Dieu. Et Dieu a un regard pour celui qui est dans le besoin. Et il nous exhorte à être généreux. Tout comme lui, il est généreux envers nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, dit-il le Seigneur en Lévitique, chapitre 19. La générosité, donc, est une marque du peuple de Dieu, aussi sous la Nouvelle Alliance. Paul dit à Timothée au sujet des croyants riches, 1 Timothée, chapitre 6, « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Donc, ce n'est pas mauvais en soi d'être riche. Mais que devons-nous faire? Ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêt à partager. La générosité, vous voyez, au sein du peuple de Dieu, n'est pas imposée, n'est pas forcée, mais reflète un cœur transformé par la bonté de Dieu. Et donc, porte du fruit dans ce domaine, démontre une vraie repentance, dit Jean à ceux qui l'écoutent, la foule. Deuxième catégorie, des collecteurs d'impôts, verset 12, des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus de ce qui vous a été ordonné. » Être un collecteur d'impôts n'était pas en soi, dit Jean, une mauvaise chose. Jean ne les accuse pas, comme souvent c'est le cas, nous entendons sur la dette des collaborateurs avec des Romains. Mais ils ne doivent pas abuser de leur autorité en cherchant à profiter injustement des autres de par leur position d'autorité. Ils doivent être honnêtes dans leurs affaires. Aujourd'hui, il me semble que ce n'est pas les collecteurs d'impôts qui courent particulièrement ce danger-là. Aujourd'hui, ça touche un public plus large. Le fait de vouloir s'enrichir sur le dos des autres. Peut-être le fait de laisser les autres travailler plus et moi d'en tirer les bénéfices. On pourrait dire un membre d'une équipe qui laisse d'autres membres de l'équipe faire le travail jusque tard pour terminer un projet. Lorsque cet autre membre de l'équipe fait ses courses sur Cool Blue, sur Internet, sans que les autres le voient, afin de profiter des deals de Black Friday. Il se peut que ce soit un projet à l'école, simplement, que je dois faire avec d'autres. Et je laisse les autres faire le projet pour moi, tandis que lors de la présentation, je fais semblant que moi, j'ai joué ma part là-dedans. Peut-être c'est un pasteur qui fait croire à son assemblée qu'il a écrit le message de dimanche matin, mais en fait c'était plutôt ChatGPT. Lorsque lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait la prochaine série Netflix. C'est pas mon cas, chers amis. Agir ainsi, et nous tombons, selon Paul, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Jean, il nous appelle à la repentance. Ensuite, il y avait les soldats. Verset 14. Des soldats aussi lui demandaient, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Un soldat, qu'il soit un soldat juif ou romain, il ne sait pas que ce soit l'un ou l'autre, de par son autorité, pouvait facilement se servir de son autorité pour exiger un profit pour lui-même. Est-ce que ça nous touche, ça, nous aussi? J'ai lu ce dernier temps un livre sur la révolution iranienne en 1979. À ma surprise, j'ai trouvé ça passionnant. Mes premiers souvenirs de ma vie viennent de l'Iran, où mes parents y étaient juste au moment de la révolution. Bon, la révolution avait pour conséquence qu'une cinquantaine d'hommes et de femmes américaines ont été pris en otage à Téhéran. Et ils y restaient otages pendant un an et demi, vers la fin du mandat du président américain Jimmy Carter. Et l'une des accusations choquantes soulignées par ce livre que j'ai lu, c'est que certains membres de l'équipe du candidat électoral républicain en 1980, Ronald Reagan, ont fait savoir aux Iraniens, par divers canaux officieux, que les Iraniens obtiendraient un meilleur accord s'ils attendaient pour l'administration Reagan. Et donc, la libération des otages a été prolongée afin de permettre l'élection de Reagan. Ils craignaient, les conseillers de Reagan, la montée en popularité, dont Jimmy Carter, qui était aussi candidat en 1980, aurait bénéficié si la libération des otages avait eu lieu juste avant l'élection présidentielle. On lit ça, chers amis, et on dit, ben, j'espère qu'on dit, combien c'est lamentable, si cela est vrai, de jouer avec des personnes comme ça. Mais voici ce dont l'homme est capable. Jean, il le savait, chers amis. De mettre ses propres intérêts au centre de sa vie, aux dépens de la gloire de Dieu et du bien de notre prochain. Qu'on soit soldat en Judée à l'époque de Jean-Baptiste, qu'on soit habitant à Bruxelles à notre époque, nous sommes capables d'agir de la sorte. Ceux qui se servent de leur autorité et menacent les autres de force, que cela soit physique comme un soldat ou moral comme un politicien, pour imposer leur volonté. Ou un époux jaloux envers son épouse, un chef d'entreprise envers ses employés ou ses clients, qui cache la vérité, qui manipule le regard que les autres ont de lui. De telles personnes, comme pour des soldats, dit Jean, doit faire attention. Le Seigneur voit, les amis, ces choses. Il appelle ceux qui sont créés à son image d'agir envers d'autres de la même façon qu'on aimerait qu'ils nous traitent nous, avec compassion, avec transparence, avec justice. Car la sainteté, voyez-vous, chers amis, n'est pas concernée par des apparences religieuses externes, mais par des relations humaines intègres. Il y a eu donc d'abord la foule qui posait une question à Jean, ensuite les collecteurs d'impôts, ensuite les soldats. Alors imaginons maintenant si c'était nous qui posions la question suivante à Jean. Et nous, qu'est-ce que tu dis par rapport à nous? Qu'est-ce qu'ils répondraient dans votre cas? Dieu, vous voyez, n'est pas dupe. Il sait ce que c'est quelqu'un qui le cherche réellement, quelqu'un qui l'aime réellement, qui ne cherche pas que les autres tournent toujours autour de moi, mais qui cherche à ce que Dieu, lui, soit au centre. Et du coup, nous mettons la compassion pour les autres, la justice, l'honnêteté envers les autres comme étant notre toute autre priorité. C'est facile encore aujourd'hui de regarder les autres autour de nous et dire « Ah, mais au moins je ne suis pas aussi mauvais qu'un tel ou qu'un tel. » Mais Jean nous dit d'examiner nous-mêmes et de nous repentir en vue du pardon de nos péchés. Mais est-ce possible que Jean appartient, lui, à cette époque, toujours par l'Ancien Testament, où nous parlons du jugement, de condamnation, de repentance, tandis que sous le régime de Christ, nous sommes passés à une époque caractérisée plutôt par l'amour et la paix, etc. Alors ça nous mène à notre dernier point. Celui qui est plus puissant que moi. Celui qui est plus puissant que moi. Pourquoi Jésus est-il au centre de notre foi plutôt que Jean? C'est bien ici où c'est utile, je pense, de capter la suite de ce que Jean témoigne. Car verset 15, telle était la portée de son ministère. Ou verset 15, beaucoup se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie, le roi éternel promis par Dieu, de la lignée de David. C'est toi, Jean. Verset 16, alors il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ce verset 16, je pense, à nous expliquer pourquoi Jean lui-même voulait mettre l'accent sur Jésus plutôt que sur lui. Pourquoi nous proclamons la foi en Jésus-Christ plutôt qu'une foi en Jean-Baptiste? D'abord, dit Jean, Jésus a un standing supérieur que moi. Jean, il est prophète. Il annonce la parole de Dieu. Mais il n'est pas digne de détacher la couronne de ses sandales de Jésus. Car lui, Jean annonce l'arrivée du Seigneur, mais Jésus, lui, il est le Seigneur. Ensuite, le baptême donc, que Jean opérait anticipe un baptême plus conséquent. Si Jean les baptise d'eau, un baptême qui symbolise la purification à l'intérieur, Jésus, lui, baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et l'image-là évoque une division par purification et jugement, ce qu'il aborde le jugement dans le verset suivant. Donc je ne pense pas qu'ici, ça parle de ce qui arrive à la Pentecôte lorsqu'il y a eu des langues qui semblaient de feu au moment où le Saint-Esprit était donné à l'Église. Non, ça parle ici plutôt de l'œuvre de Jésus qui purifiera ceux qui répondent positivement et qui purgera ceux qui refuseront de répondre. Il en résulte un peuple purifié pour le Seigneur lorsque Jésus vient. Ainsi, la purification symbolisée par le baptême et le pardon des péchés dont prêchait Jean anticipe, en fin de compte, l'œuvre de Christ et de son Esprit. Et notre baptême à nous, au nom de Jésus-Christ, témoigne de notre dépendance de Christ. Pierre, à la Pentecôte, a dit ceci, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le baptême chrétien, bien qu'il trouve ses racines dans le baptême de Jean, surpasse ce que Jean effectuait. Et Jean y savait que cela allait être le cas. Le baptême est plus conséquent, car verset 17, le jugement dont Jésus nous sauve, si nous nous tournons vers lui, aussi est plus conséquent. Verset 17, il a sa pelle à la main, il nettoyera son aire de battage, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean poursuit ici l'image d'une moisson eschatologique à la fin des temps. La pelle était utilisée pour soulever dans les airs, le mélange de blé et de paille, les grains de blé plus lourds tombaient sur le sol, tandis que la paille plus légère était emportée par le vent. Et ici, la paille n'est pas simplement emportée, mais ensuite brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Image employée ailleurs dans le Nouveau Testament pour parler du jugement définitif, éternel, de notre Dieu, de ce qu'on appelle l'enfer. Les enjeux, vous voyez, sous le règne de Jésus, devient encore plus grand que sous le ministère de Jean. Les enjeux, lorsqu'on parle de Jésus, sont éternels. Donc tout ceci, l'étude de cet évangile de Luc, ce chapitre 3, un rassemblement comme celui-ci, ce n'est pas un jeu, mes frères et sœurs, ce n'est pas un passe-temps, un intérêt religieux pour certains sombres et conséquences. Non. Nous avons affaire au Dieu trois fois saint qui rend visite à son peuple. Et si nous ne nous tournons pas vers lui dans la repentance, nous serons condamnés face à sa sainte colère. Bien sûr, nous pouvons rejeter ce message. Ah, ça appartient à une époque dépassée, etc. Mais ça vient, ce message, des lèvres de Jésus lui-même et du prophète qui pointait de doigt Jésus. Jean. Et c'est encore aujourd'hui, mes amis, qu'il faut agir. Au moment du jugement, il sera trop tard. Les habitants de ce village en Suisse, de Blatten, devaient évacuer en vitesse lorsque l'alarme sonnait et le glacier s'est écroulé. 15 jours avant cela, personne n'avait imaginé que cela allait arriver. Mais lorsque cela s'est déclenché, en moins d'une minute, tout a changé pour toujours. Alors de même, lors du moment du jugement à venir, nous pouvons penser que ça arrivera jamais, que je ne suis pas vraiment en danger. Nous pouvons réclamer d'autres qui disent la même chose autour de nous. Mais ce n'est pas vrai. Parce que Jean et ensuite Jésus annoncent l'arrivée du Seigneur. Et n'oublions pas le verset 6. Tout homme verra le salut de Dieu. Lorsque Jésus est entré en scène, avant de venir définitivement comme le roi triomphant qui écrasera tout ce qui s'oppose à lui, il vient, pourquoi ? Pour sauver. Comment est-ce qu'il sauve ? En prenant sur lui-même l'équivalent spirituel des millions de mètres cubes de gravats, de glace et d'eau. La colère de Dieu tombait sur lui pour que nous soyons en sécurité si nous prenons refuge en lui. Et c'est ici où l'illustration avec ce village en Suisse ne marche pas. Car là, le jugement tombe de la montagne, du glacier. Et ils ont été sauvés par des géologues, pour finir. Mais ici, le jugement vient de Dieu. Et qui est-ce qui les sauve ? Dieu lui-même, le Seigneur qui vient dans la personne de Jésus. Dieu, dans sa bonté, se donne de lui-même afin de sauver un peuple qui, dès lors, lui appartient, scellé de l'Esprit-Saint. Voilà pourquoi Jésus est plus grand, chers amis, que Jean. Vous voyez, il ne faut pas penser que nous pouvons être sauvés à travers notre repentance. La foule qui devient tout d'un coup généreuse, les collecteurs d'impôts qui deviennent honnêtes, les soldats qui ne s'abusent plus de leur autorité. Non, si nous sommes sauvés, c'est par la bonté et l'amour de Dieu envers nous en Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous pour racheter, nous racheter de tout mal. C'est le verset que Paul il avait lu. Mais si nous nous tournons vers le Christ, alors oui, le fruit de ce changement de direction, cette repentance, se manifestera dans notre vie. Verset 8, produisez donc des fruits qui confirment votre repentance. Il s'est donné, Tite 2, lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. C'est nécessaire, cette dernière partie. Ce n'est pas des belles œuvres qui sauvent, Mais si nous sommes sauvés, nous sommes zélés pour de belles œuvres. Et donc Jean, il nous pointe vers Jésus, que nous nous tournions vers lui encore dans la repentance pour recevoir son esprit, son pardon, et que cela se voit par la suite dans chacun d'entre nous par une vie imprégnée par l'Esprit de Dieu. Un tel message, on termine avec ceci, n'est pas flatteur. Flatteur de dire qu'il y a un jugement qui viendra. Il faut prendre refuge en Jésus. Imaginez pour un moment cette ville, village encore en Suisse, que si eux, ils avaient dit, ben non, 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 ils exagèrent ceux qui parlent de cela. C'est pas aussi grave que cela, ça va pas tomber comme ça. Non, c'est bon. Ben, un message est flatteur comme ça. On reste sur pied, on dit, voilà, j'entends ce que j'ai envie d'entendre. Peut-être aujourd'hui, vous avez entendu ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais ce n'est que ce message-là qui sauve. Parce que Jésus ne nous flatte pas, Jean ne nous flatte pas, il y aura toujours ceux qui s'opposent à ce message. Et c'est ça ce qu'on voit tout à la fin, n'est-ce pas, verset 19. Hérode, la tête rare, à qui Jean faisait des reproches, parce qu'il parlait justement de la repentance, des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, il ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean en prison. Mais Jean, courageux jusqu'au bout, avertit. Il dit la vérité à la foule. Il dit la vérité aux soldats. Il dit la vérité au pouvoir, donc à Hérode. Et il dit encore aujourd'hui la vérité à nous. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il tient Jésus en plus haute estime que toute autre personne. Et à travers ce qu'il a écrit, il nous appelle encore à faire de même. Donc je vous invite à prier avec moi. Jean prêche le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Merci Seigneur que Jean anticipe le baptême de Jésus, de l'Esprit Saint, de feu. Et ainsi Seigneur, parce qu'il nous renvoie vers Jésus, il nous renvoie vers ce que Jésus a fait pour que nous soyons sauvés de ce jugement à venir. Que nous puissions donc contempler encore aujourd'hui le salut de Dieu en Jésus-Christ. Que tu nous donnes de ne pas chipoter en pensant qu'il faut encore reporter une décision à propos de Jésus, qu'il faut prendre à la légère ce que Jésus nous dit parce que nous avons peur de ce que nos amis ou notre famille penseront de nous. Mais que nous ayons comme Jean un regard plus grand, supérieur pour ce que Jésus nous dit. Et donc donne-nous de nous tourner vers lui dans la repentance et la foi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.